Kianaré Limena, tu es entraîneur des secondaires pour le Rouge Or de l'Université Laval. Vous avez trouvé une recette gagnante, mais ça fait combien de temps que vous travaillez tous ensemble? Est-ce que Laval se prépare de la même façon s'ils vont jouer contre les Carabins ou peu importe une autre équipe de la Ligue? Qu'est-ce que Glenn Constantin représente pour le programme? Comment il a façonné la culture de ce programme-là? Bonjour tout le monde et bienvenue sur Le Game On. C'est votre host, William Rochefort. C'est un plaisir de vous recevoir. Cette semaine, on marque l'histoire. On reçoit l'université la plus titrée au Canada. On parle de 12 victoires de Coupe Vanier. Si vous n'avez pas encore deviné, c'est parce que vous vivez dans une grotte. L'Université Laval. J'ai la chance de recevoir Kianaré Limena. Bienvenue sur le podcast. C'est un plaisir de te recevoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment spat, Kian. Sérieusement. Je commence souvent avec des introductions pour mes invités. Voici ton intro. Kianaré Limena, tu es entraîneur des secondaires pour le Rouge Or de l'Université Laval. Tu es originaire de Laval. Tu as évolué avec les Loups de l'école secondaire Curie-Antoine Labelle. Ensuite, tu t'es joint aux Cheetahs du Collège Vanier, où tu as été nommé à deux reprises au sein de l'équipe étoile défensive en 2014-2016. Et aussi, tu as été nommé joueur défensif par excellence en 2016. Étudiant athlète de 2017 à 2019, tu rejoins l'Université Laval où tu as été nommé recrue de l'année universitaire par la RSEQ. Un an plus tard, tu remportes la Coupe Vanier à domicile. En 2019, tu es de nouveau retrouvé au sein de l'équipe étoile défensive de la RSEQ, U-Sport aussi. Comme entraîneur en 2022, tu reviens à temps plein comme coordinateur défensif des Faucons du Cégep de Lévis. Après seulement 3 saisons, tu retournes à la maison avec le Rouge et Or pour prendre le rôle des secondaires. Aujourd'hui, tu es aussi le co-host du podcast Sans Restriction. Tu es aussi head coach de Linebacker Prototype à Québec. Kian, merci d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue sur Le Game On. J'ai souvent l'habitude de commencer avec cette question-là, mais pourquoi de commencer le football? De où ça part le football pour toi, Kian?
Merci pour l'invitation, Will. Ça fait plaisir d'être là aujourd'hui pour te parler de mon parcours, puis un peu de qui je suis et qu'est-ce que je fais dans la vie. Comment j'ai commencé le football, en fait? Moi, c'est grâce à mon grand frère. J'ai 3 frères, on est une famille de 4 garçons à la maison. Puis mes 2 grands frères, en fait, mon plus vieux, c'est plus un artiste qui était plus dans la musique, mais mon grand frère Brian, qui joue présentement pour les Argonauts de Toronto, c'est lui, en fait, qui m'a un peu initié au football, puisque un de ses bons amis avait commencé le football, puis Brian voulait jouer aussi, donc il a décidé d'essayer. Puis on a seulement 13 mois de différence, donc on a grandi vraiment super proche l'un de l'autre. On a souvent fait les mêmes activités, on a souvent eu le même cercle d'amis, donc c'est tombé en fait un soir que je suis allé voir la pratique de mon frère avec ma mère, puis le père de l'ami de Brian, en fait, nous a juste présenté, puis là j'ai vu comme quoi ça m'intéressait, puis ma mère m'a demandé est-ce que tu voulais jouer. Puis j'ai dit, ah, ben, j'étais pas fermé à l'idée. Puis là, la semaine d'après, je suis allé à la pratique. Puis c'est là où est-ce que j'ai fait mes premiers pas dans le football. Puis c'était en fait à l'époque pour le programme de football Alexander Park dans l'Ouest.
Bien sûr, ouais. J'ai joué contre Alexander Park. T'as-tu déjà joué contre les Bulldogs de Sherbrooke?
Vraiment, oui, j'ai même pas le souvenir. En fait. Je me souviens, en fait, il y avait quelques équipes proches de l'Ouest qu'on avait fait. Coach, puis juste d'être impliqué dans les activités hors de l'école. Au début, c'est ça vraiment qui m'a fait prendre. Puis moi, comme je te dis, mon grand frère, c'était un peu mon meilleur ami, puis je voulais faire comme lui souvent dans la vie. Donc j'ai juste pris, puis plus les années ont avancé, plus j'ai commencé à développer un amour plus grand pour le sport. J'ai touché à d'autres positions également, puis maintenant, en fait, ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie de ma vie à tous les jours, puis je ne changerai pas rien du tout mon parcours. En fait.
Fun fact, j'ai déjà joué contre Alexander Park. c'est pour ça que je te disais ça. Le fameux, je sais pas si tu jouais là à ce moment-là, mais comme le fameux terrain en gazon, là, en plein milieu de plein d'appartements, comme ça, c'était quand même pas pire. Je sais qu'après ça, t'es allé à Curé-Antoine Labelle, t'as joué là-bas. Par moi, est-ce que t'as commencé direct dès secondaire 1 là-bas? Ou t'as joué civil? Ah, ok. Qu'est-ce que tu veux dire par réalité? Différence entre le hockey puis le football? Ensuite, tu as été à Vanier. Est-ce que tu avais d'autres offres que Vanier ou c'est parce que tu voulais rester proche de la maison? L'affaire qui est le fun, c'est que toi et ton frère, vous êtes suivis beaucoup, là. Donc c'est quand même cool, là. Dans tes années à Vanier, est-ce que tu as joué avec un Xavier Ouellet? Ouais. Ouais, exact, exact. Ben oui, j'ai joué. Ben, j'ai pas joué avec parce qu'il est un peu. Ben, je pense qu'il a la même âge que toi, peut-être un peu plus vieux. Mais il m'a coaché, moi, puis j'ai joué avec son plus petit frère aussi. Puis on se connaissait depuis un bout. Puis je m'en souviens, là, dans le temps, là, c'était le gars qui s'en allait à Montréal à la place d'aller. OK. Ouais, effectivement. Ouais, je pense qu'il va écouter en plus, donc shout à lui. OK, c'est cool. Dans le 2014 à 2016, je sais que tu as perdu un bol d'or de mémoire. Vous êtes sûr? Ouais, hein? T'es. Écoute, je pense que ouais, on aura l'occasion d'en parler, mais écoute, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit qui ont gagné des Coupes Vanier et puis ils me disent ah, j'aurais voulu vraiment gagner un bol d'or, c'est un feeling quand même assez spécial, mais en même temps, quand tu es champion national, je pense qu'il n'y a rien qui peut battre ça. Avant de jumper justement sur ton parcours à Laval, comment, à quel point ton parcours collégial t'a forgé en tant que personne? En tant que. Parce que moi, personnellement, je sais que, tu sais, j'ai pas joué universitaire. Mais moi, collégial, là, mon gars, ça m'a permis d'apprendre à me connaître, à maturer dans la vie. Puis je pense que ça m'a aidé à me forger un peu à qui je suis aujourd'hui. J'ai envie de t'entendre là-dessus, en fait.
ça a été un peu dans le confort. J'ai pris juste pour être content de prendre la décision de sortir de ma zone de confort, prendre un peu le leap of faith, puis évidemment avec le support de mes parents qui ont tout le temps été vraiment présents dans notre vie sportive, puis ils sont à ce jour, mais mes parents ont tout le temps été là, puis ils ont dit, si vous faites ce qu'il vous faut, mais ce que vous devez faire, en fait, nous, on va être là pour vous supporter, juste donner des bonnes notes à l'école, soyez des bonnes personnes autour des gens que vous côtoyez, puis le reste, on va être là pour vous supporter lorsque vous en avez besoin, puis c'est vraiment ce qui s'est passé, puis ça m'a donné la confiance pour justement attaquer toutes les épreuves que je voulais faire après parcours au cégep.
Je pense qu'être bien entouré, c'est vraiment d'acquis, puis tu as eu la chance d'être bien entouré, mais en plus de ça, c'est le fait d'avoir de la bonne compétition comme tu as vécu. Je pense que ça t'a quand même poussé. Puis tu sais, on a les preuves ici. Tu as quand même été 2014, tu as quand même été au sein des équipes étoiles défensives, qui est quand même, tu sais, c'est un bel exploit, surtout quand tu joues collégial division 1. Je peux te dire que pour avoir passé par là, les gars qui font partie de l'équipe étoile, t'sais, souvent ils le méritent. Puis souvent, on sait c'est qui ces joueurs-là sur le terrain. Tu as choisi Laval. Est-ce que c'est parce que ton frère est allé aussi à Laval ou ton frère n'est vraiment pas allé... Pourquoi tu as choisi Laval, en fait?
Mon frère est allé pour l'Université
de Montréal, en fait.
Il est allé pour les
Carabins. Oh, OK.
Ouais, c'est ça. Il n'est pas allé à Laval du tout, en fait. Il est allé à notre grand niveau. Puis, en fait, lui, justement, il y a un an plus vieux, donc il a fait sa décision. Il a visé à l'Université de Montréal. Puis moi, c'était ma dernière année. J'entamais ma dernière année au collégial. Puis là... le classique, est-ce que tu commences à te faire recruter par les différentes universités, puis là les gens commencent à me demander est-ce que tu vas faire un peu la même décision que tu as fait pour aller au cégep, puis suivre ton frère pour aller à l'université. Mais comme j'ai mentionné un peu plus tôt, pour moi, je cherchais à ce moment-là quelque chose de différent. Puis quand j'ai commencé un peu à... j'avais le rêve, comme un peu plusieurs jeunes maintenant, de jouer aux States, mais c'était un peu plus compliqué à l'époque, niveau académiquement, même un peu l'exposure n'était pas aussi grand qu'il est en ce moment. Puis je suis content maintenant que les jeunes... de facilité d'atteindre le rêve, mais à mon époque, c'était pas aussi facile. Pas impossible, parce qu'il y a des gens comme par exemple Benjamin Saint-Just, que j'ai joué au secondaire, qui a réussi.
Ah, no way!
Des spartiates pour pas rester là à Michigan ou quoi que ce soit. Donc c'était faisable, mais c'est juste pas nécessairement aussi facile. Donc quand c'est arrivé à mon tour, je savais que pour moi, c'était important de quitter la maison. C'était quelque chose que je voulais dans ma décision. Donc ça tombait que c'était Laval, mais j'ai été ouvert. À visiter ailleurs au Canada, j'ai fait des visites à Guelph, à UBC, à Calgary. J'ai vraiment visité le Canada pour plusieurs des équipes qui m'ont démontré d'intérêt. Parce que je trouvais que c'était important de prendre toute l'information pour prendre la meilleure décision pour toi à ce moment-là. Parce que tu es rendu entre 19 et 21 ans quand tu prends cette décision-là. Puis c'est probablement la plus grande décision que tu prends de ta vie à ce stade-ci. Donc c'est important pour moi d'être réfléchi, d'être posé, puis de vraiment penser à où est-ce que je me voyais après mon parcours. Donc, j'ai fait tout ça, puis effectivement, les deux dernières équipes pour lesquelles ça a vraiment tombé en, c'était évidemment le Rouge et Or, puis les Carabins. C'est l'équipe où est-ce que mon frère jouait, puis l'équipe où est-ce que moi j'avais beaucoup de... que je voyais en haute estime. Parce que aussi, juste pour faire une anecdote, quand j'ai commencé à regarder le football universitaire à la télé, c'est de nos jours maintenant, c'est la TVA Sport qui présente
universitaire,
mais c'était Radio-Canada, donc j'écoutais sur Radio-Canada, puis je pense que c'était un match de demi-finale canadienne, mais c'est dans les époques où est-ce que Benoît Gros était le carrière du Rouge-et-Or, Sébastien Lévesque était le porteur, puis ils avaient des équipes vraiment compétitives, mon collègue de travail Guillaume Rioux faisait partie du Receiver Corps, quoi que ce soit, puis c'était des années où est-ce que Laval était tellement dominant, puis quand je regardais ça à la télé avec mon frère, on était comme waouh, on voyait comme quoi le Stade Télus, le crowd était rempli, gonflé à bloc, beaucoup de support derrière l'équipe. C'est vraiment là où est-ce que je suis un peu tombé en amour avec cette équipe-là. Inconsciemment, je voyais le succès qu'ils avaient, je voyais un peu la structure, puis j'étais impressionné. Fait que du moment où est-ce qu'ils ont mis mon approché pour me recruter, puis que j'ai fait ma visite ici, puis j'ai vu qu'est-ce que c'en était pour de vrai, ben là, j'ai dit « Wow, j'ai un peu the best of both worlds ». Le plan technique était excellent. Ils avaient un plan pour moi en tant que joueur de football. Puis je savais, comme je te dis, que j'avais confiance en mes moyens, puis je savais que du moment à l'université que j'allais, les gars dans l'alignement, c'était pas vraiment un facteur pour moi parce que j'avais confiance que si je venais, depuis que je travaillais, je faisais mes preuves, que j'allais pouvoir tirer mon épingle du jeu puis essayer de prendre un peu de ma première année. Puis c'est quelque chose qui est arrivé ici de fin de l'année. Puis comme je dis maintenant, cet été, ça va faire 8 ans que j'ai déménagé à Québec en temps plein. Puis si tu demandes au Kian avant de rentrer à Laval, si je me voyais rester à Québec après mon parcours universitaire, j'aurais probablement dit jamais, je vais là parce que bah, en fait, c'était mon meilleur fit académique puis athlétique. Là, je suis tombé en amour avec la ville, puis là, je me suis installé avec ma fiancée, puis je suis devenu papa l'automne dernier. Donc,
yo, félicitations, man, c'est hot. Nice, man. Fucking nice, man. Je savais pas, man. Je savais pas que t'étais nouveau papa. C'est vraiment cool, mais là, c'est le fun que t'ailles. Maintenant, je suis capable de faire le lien. Pourquoi les gars, ils me disaient que je vais avoir du fun à parler avec toi parce que justement, t'es jeune puis tu peux vraiment relate le plus. Tu sais, je pense que ça fait pas tant longtemps que ça là, que t'as fini de jouer à Laval comme joueur. Donc, la fois qui est intéressante, c'est que tantôt, quand on va parler du recrutement, mettons, de cette année, mais tu vas être capable de relate avec ton expérience de quand toi tu t'es fait recruter, puis les genres d'outils qu'eux utilisaient quand toi tu étais joueur, mais que maintenant toi tu vois le backstage aussi. Tu vois comment tu te prépares à ça. C'est vraiment cool. Quand tu es arrivé à Laval en 2018, tu as gagné la Coupe Vanier. Okay? Vous avez gagné une Coupe Vanier. Ouf, contre Western.
On l'a perdu, puis on l'a perdu d'une façon assez franche. Voici, on avait une très très bonne équipe, ils étaient prêts, puis on s'est fait dominer ce match-là, on l'a perdu au lendemain. Mais ça nous a laissé un goût très très amer pour le off-season de 2017, de transition à 2018. Puis on avait un peu le feu tout l'hiver pour nos préparations. On savait qu'on avait potentiellement la chance d'aller le voir parce qu'ils avaient une équipe relativement jeune également qui avait pour la plupart de revenir, à part les gars qui passaient pro. Puis on s'était dit que si jamais on avait la chance de reprendre cet adversaire, on ferait les choses pour s'assurer de ne pas avoir le même résultat. Puis c'est une chose qui s'est faite en 2018 parce que c'est une année incroyable parce qu'on a été invaincu du match pré-saison jusqu'à la Coupe Vanier. Une année magique. Puis c'était assez spécial parce qu'en 2018, on a eu la chance d'accueillir la Coupe Vanier à Québec.
Ouais.
Habituellement, la Coupe Vanier, des fois, quand elle se fait annoncer, c'est des contrats de 2 ans. À ce moment-là, on avait en 2018 la Coupe Vanier à Québec. Le fait de pouvoir gagner la Coupe Vanier pour le plus beau programme à la maison, c'était incroyable.
C'est sûr, man.
Tellement d'efforts à travers la nuit qui a été récompensé cette journée-là. Puis, c'était spécial. Puis, surtout, c'est là que tu en parlais tantôt de championnat que j'ai pas pu gagner lorsque j'étais au Cégep. En 2018, ça faisait officiellement mon premier championnat que je gagnais.
À vie?
J'ai gagné d'autres à travers.
Ok. Ouais.
C'est pas nécessairement pareil, c'est 3 matchs. C'est une équipe qui est bâtie dans l'espace de total 1 mois.
Ouais.
Mais quand tu grind avec les gars pendant 9 mois de l'année à travailler dans le même but commun à travers les différents genres de obstacles, les grinder, les réveils tôt, les sommets tard le soir, les
préparations,
les stress, les matchs qui vont bien, les matchs qui vont un peu moins bien. C'était vraiment spécial avoir tout l'aboutissement de ces efforts-là, puis de l'anticipation, parce qu'on n'était pas naïf, on voyait un peu les choses, comment elles se plaçaient. Puis lorsque tu arrives au stade national, depuis la finale canadienne, où il reste 4 équipes, puis là, tu sais que l'équipe qui t'a battu l'année d'avant est dans le carré d'as de l'autre côté. Puis je pense à cette année-là, on jouait la demi-finale canadienne, la première de la journée, donc nous, on avait notre billet pour la Coupe Vanier, puis là, on regardait le match par la suite de Western, qui jouait dans l'Ouest. Puis quand ils ont eu leur billet, on savait que c'était game on. Puis,
oh, hein? Exact.
On savait c'était quoi l'enjeu au bout de la semaine qui nous attendait. Puis, incroyable, comme je te dis, Gameplan était on. Je pense que c'était une journée où est-ce que les As se sont alignés 2 jeux après leur commence le match. Premier jeu, non, passe complété pendant 50 verges. Deuxième passe, une bombe touchée. Fait qu'après 2 jeux, on marque un touché. Là, j'étais sur le sideline puis j'ai dit, OK, il n'y a aucune chance qu'on perde le match aujourd'hui. C'est une des journées où est-ce que les choses sont bien alignées pour nous. Puis, comme de fait, on a une grosse performance défensive, special teams, offense, puis on était champion à la maison.
Nice. T'as-tu une anecdote, une histoire, de quoi qui t'a marqué, de pas nécessairement juste du match, mais de la semaine de préparation au complet?
Oui, en fait, c'est toujours spécial. Une semaine de Coupe Vanier, parce qu'il y a plusieurs événements autour de la game qui changent un peu ta routine. Par exemple, il y a comme tes heures de pratique ne sont pas nécessairement toujours pareilles, puisqu'il faut aussi que tu accommodes l'équipe adverse. Donc, des fois, ça change un peu l'horaire habituel de l'équipe. Par la suite, tu as le souper All-Canadian ou banquet All-Canadian durant la semaine où est-ce que il y a les deux équipes qui sont là. Donc, nous, on était là, toute l'équipe. Il y avait Weston qui était là, il y a un souper, il y a une présentation des équipes, canadiennes, le head Creighton, l'entraîneur de l'année, tout ce genre de choses-là. Donc, il y a plus de choses. Donc, déjà, là, je me souviens que Weston était arrivé. Puis, eux, ils voyageaient d'une façon, ils étaient habillés, je pense, en veston, cravate, comme l'uniforme que tout le monde avait. Puis, t'sais, nous, on était juste, par exemple, comme un polo, un peu comme j'ai en ce moment, dans nos couleurs ou habillés. Tenue de ville, bien propre. Puis, je me souviens, cette année-là, il y avait un de leurs bons secondaires, Fraser Sopé, qui a gagné le President's Trophy, qui est le meilleur stand-up defensive player de l'année. Donc, le meilleur joueur défensif qui n'est pas joué en ligne de l'année. Puis, il a fait un speech comme quoi, nous, on avait un peu considéré un peu très arrogant. Il était confiant de ses moyens. Puis, je comprends qu'ils se sont rendus là, mais il faut comprendre que nous, moi, je crois que le meilleur football est joué au Québec, dans notre continent. Je pense qu'on a les équipes les mieux préparées, les joueurs les plus développés aussi. Donc, chaque semaine, c'est un test que ça peut peut-être pas être la réflexion sur le scoreboard à chaque semaine, mais on respecte nos adversaires à chacune des semaines, puis on va jamais prendre un adversaire à la légère. Donc, je pense qu'ils nous ont vraiment forgé pour ce genre de match-là. Et puis, eux, un peu dans la même chose, ils ont dominé un peu leur conférence dans le OUA. Mais je pense qu'ils n'ont pas vraiment eu beaucoup d'adversité cette année-là, puisqu'ils avaient une grosse équipe. Mais là, ils parlaient comme s'ils avaient joué une autre équipe du Tournoi. Et puis, nous, on s'est dit, t'es chez nous. On a la chance d'avoir le même match-up qu'on a eu l'an passé, qu'on n'était pas satisfait du résultat. Puis, on réservait quelque chose pour lui. Donc, il a dit certaines paroles où est-ce qu'il était très, très arrogant. Puis, c'est un peu son personnage, c'est un peu son demi-neuf. Je ne sais pas encore, mais il a piqué, he poked the bear. Puis,
exact.
On a regardé notre, il n'y avait pas besoin de plus de motivation, on savait déjà tout ce qui était sur la ligne. Puis, je me souviens que même à ce moment-là, je pense que Greg Marshall avait gagné l'entraîneur de l'année, puis il était en train de pousser son équipe, puis il était comme quoi ils étaient bons, ils étaient forts. Et on savait le groupe de joueurs qu'on avait dans notre vestiaire, puis on savait qu'on avait quelque chose de réservé pour eux. Chose faite, on est venu, on came out swinging, on était prêts, puis les gars ils ont répondu. Puis à la fin de la journée, ben, c'était nous qu'on les trophées au-dessus de notre tête.
Exact, tu sais, c'est dans leur tête, c'était les underdogs un peu, mais c'est correct, ça, c'est le fun, ça le build up, puis ça vous a encore plus motivé à gagner. C'est un peu comme dans les press conferences avec les boxeurs, un peu ce genre de truc-là. Mais le feeling doit être tellement bizarre, man, quand tu sais que tu joues en fin de semaine la Coupe Vanier contre cette équipe-là, puis ils sont assis en face de toi durant une cérémonie de trophée, là, ça doit être weird, là. Exact.
En vacances, ils sont déconnectés. Puis, on va se dire, parmi toutes les équipes au Canada, à mon avis, on probablement regarde la Coupe Vanier à la fin de la saison pour voir ce qui va se passer. Tu sais que tous les yeux vont être braqués sur vous, sur les deux équipes. Donc, je pense pas qu'à ce stade-là, c'était une situation de stress. C'était pour nous. On est choyé de jouer devant des grosses foules, avoir beaucoup d'attention médiatique de semaine en semaine. Donc, pour nous, c'était juste comme business as usual. Évidemment, il y a un peu plus de festivités à cause de tout ce qui vient. Puis, on avait un avantage ici à Laval, c'est jouer devant la meilleure foule au pays. Puis ils étaient présents malgré les conditions froides. Québec font tout le temps en sorte comme quoi c'est un happening lorsque tu fais un match au Rouge et l'Or. Puis la foule nous a propulsés, ils nous ont aidés. Puis à ce jour, je pense qu'on a la plus grosse communauté de partisans au Canada. Puis ils sont derrière nous. À chaque année, notre équipe de médias, de communication ici font des travaux colossaux pour essayer de trouver des façons d'attirer les gens au stade, que ce soit de l'animation, que ce soit des partenariats avec les différents collaborateurs.
Je dois vous le donner, honnêtement, c'est trippant. À chaque fois que je suis allé au stade TELUS, ouais, je suis venu plusieurs fois, ouais, c'est cool, c'est vraiment hot. Genre, c'est vraiment cool. L'expérience que tu donnes, le feeling. Par contre, le feeling sur... Ouais, exact, mais le feeling sur le terrain, là, ça doit être malade. Là. Ça doit être malade quand tu joues là-bas, là. Exact.
Je suis vraiment, je dirais que les deux seules personnes que je cherche dans la foule habituellement, c'est ma femme, puis l'année prochaine, ça va être ma fille. Pour le reste, c'est bon, les gens sont là. Des fois, je vois des anciens coéquipiers que je salue, puis on va toujours revoir, mais sinon, moi, je suis concentré sur la tâche. Je communique avec mes joueurs de série en série, je communique avec Marc, qui est le coordinateur défensif, sur la même page, je fais en mode travail pendant ce moment-là, puis c'est lorsque le clock est à 0-0 que là, je peux commencer à saluer un peu des gens, puis m'amuser un peu, mais je suis très, très, très choyé, mais l'énergie, des fois, est palpable, tu la sens.
Tu parles de entre les reps, entre les répétitions, tu es beaucoup concentré, tu parles à tes gars, tu parles avec ton DC. En parlant de coaching, comment tu es rentré dans le coaching? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire ou.
J'ai toujours. Je me suis toujours intéressé à plus que la game des X et O's. Donc, plus tu es avancé, plus tu vois que les schemes évoluent, plus tu vois que c'est plus poussé ou dans les stratégies. Puis quand je suis arrivé à Laval en 2017 en tant que joueur, c'est là où est-ce que j'ai constaté dans le premier camp que j'ai fait ici que okay, là, c'est complètement une différente game, qu'il y a beaucoup plus de détails dans ce qu'on veut faire en défensive, où il y a un processus qui est instauré pour nous aider à faciliter à comment on veut se déployer en défensive, pour savoir comment ajuster. Donc, dès que j'ai compris, où j'ai pu comprendre un peu qu'est-ce qu'on veut faire dans notre défensive, là, plus mes années ont avancé, plus je suis devenu familier. Puis à la fin de mon parcours, en 2019, en ma dernière saison, je te dirais que je connaissais la défensive assez inside out, donc j'étais à l'aise de placer évidemment tout le monde dans mon cours de linebacker, puis les joueurs autour de moi, donc halfback, corner, safety, j'étais quand même...
Wow, clutch.
...connaissance de tout autour de moi. Donc, dès que j'ai su que je comprenais ces affaires-là, puis j'aimais, puis quand Marc nous donnait un corps, mais là, je pouvais un peu plus comprendre dans quel genre de situation il voulait nous mettre, qu'est-ce qu'on voulait concéder, ou qu'est-ce qu'il fallait absolument pas qu'on laisse sur un certain call. C'est là où est-ce que j'ai commencé à vraiment m'intéresser, puis ça m'a facilité aussi mon apprentissage des différentes semaines, parce que on a des différents adversaires, il y a des différents coaching staff dans toutes les équipes, donc il y a tout le temps des nuances de semaine. Il y a des choses qui se transposent, je dirais, sur toutes les semaines, mais il y a tout le temps des petites choses qu'on veut cibler par rapport à l'équipe adverse qu'on joue. Donc, quand j'ai su ça, quand j'ai terminé mon parcours, j'ai su que okay, ça m'intéresse le football, puis moi je suis un mordu de football. Évidemment, le football c'est ma passion, mais je suis un gros fan de hockey, basket ça m'intéresse beaucoup, soccer, comme tous les événements sportifs, ça m'intéresse. Puis, ma femme à la maison, elle dit, t'écoutes tellement de sport, je me demande quand tu vas te fatiguer. Puis je lui dis souvent, je pourrais en écouter jusqu'à pas qu'il n'y en a plus. I'm never over it, tu sais, ça m'intéresse beaucoup. Puis, du moment où est-ce que j'ai terminé mon parcours, j'ai travaillé un peu, j'avais mon 9 à 5, le football me manquait d'une certaine façon. Donc, c'est là où est-ce que je suis revenu donner un coup de main en 2021 à Laval en tant qu'assistant défensif. C'est un peu un rôle de GM, un peu, parce que je suis un peu de travail. Je rentrais un peu mes premiers pas dans le monde du coaching, parce que je voyais un peu qu'est-ce que ça consistait de bâtir un game plan, le breakdown du film, voir comment corriger ou c'est quoi que, en tant que coach, ok, j'étais dans le meeting de correction, Marc me donnait mes corrections, mais qu'est-ce que lui, lorsqu'il corrige lui-même, qu'est-ce qu'il regarde, comment il peut trouver des pistes claires et définies pour améliorer le joueur et non dire Will, il faut que tu cours plus vite ici, ok, mais Will, si tu baisses ici ton pad level, tu vas pouvoir être plus efficace dans ta transition, puis donner des pistes vraiment, vraiment plus directes pour qu'un joueur puisse s'améliorer. C'est là où est-ce que j'ai pu vraiment développer ça. Puis je sais pas si on va rentrer plus tard, mais pas après 2021, mais c'est là où est-ce que j'ai eu ma première opportunité à temps plein d'être coordinateur défensif à Lévis. Puis juste cette année-là m'a tellement aidé à me développer en tant que coach, parce que évidemment cette année-là, ça m'a pas eu la meilleure fiche au monde, on a seulement gagné un match. Tout le processus de bâtir un game plan, digérer le game plan, puis le régurgiter à mes joueurs d'une façon qu'eux ils comprennent un peu c'est quoi que le joueur veut. Comment, qu'est-ce qu'on va mettre en place cette semaine pour limiter les gains ou pour que nous on ait du succès. Puis justement donner des jalons facilement atteignables pour que les gars puissent voir que j'ai une progression, on va dans le bon sens. C'est là où est-ce qu'ils m'ont vraiment aidé. Puis j'ai travaillé avec des jeunes travaillants qui étaient là pour moi. Puis le fait justement que ma proximité, ça faisait vraiment pas longtemps que j'avais joué. Je pense que les gars avaient assez de crédibilité auprès d'eux pour qu'ils ne doutent pas un peu dans ce que je leur disais ou je leur demandais de faire. Puis moi, je leur disais, tu sais, gars, je suis nouvellement coach. Puis jusqu'à ce jour, puis je peux parler ici au nom de même Marc, même Yvan Constantin, notre head coach. Au football, tu termines jamais d'apprendre, tu peux tout le temps apprendre. Donc, si jamais je voyais que j'installais quelque chose ou j'en fais quelque chose, puis ça ne fonctionnait pas, j'étais pas têtu pour que ça fonctionne. J'étais prêt à juste le camion de l'autre côté, pour essayer de trouver une autre solution pour que les gars puissent avoir du succès dedans, mais qu'en même temps, on puisse avoir l'intérêt général de la défensive, de limiter les gains, être agressif avec notre ADN pour justement mettre en fait behind the sticks, puis pour que ça soit vraiment un peu de notre côté.
C'est nice que tu dises ça. Ça veut dire que quand tu es arrivé à Lévis, c'était vraiment ta première vraie job de coach. Là. C'était pas juste de l'aide. Là. Ah, c'est hot, pareil. Division 1 en plus. À ce moment-là, il était D1. Ouais.
Ouais, c'est la dernière année qu'on a été en D1. Donc, je jouais justement comme les meilleurs athlètes du Québec à ce moment-là dans notre âge. Puis ça m'a beaucoup aidé. Comme je te dis, les résultats, c'était pas nécessairement toujours ce qu'on souhaitait. Mais c'est à ce moment-là aussi que j'ai réalisé comme quoi j'étais beaucoup plus fan du processus que le résultat. Tu sais, j'aime beaucoup la préparation. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire à mes gars pour trouver le edge, que ce soit une motivation ou trouver la petite clé que je garde au fond de ma poche, que je sortir au bon moment pour que ça reste dans leur tête, mais pas nécessairement une information trop, ou si je la dis trop tôt dans la semaine ou pas trop tard. Tu sais, trouver juste le timing, comment je peux déployer un peu mon game plan, ça m'a beaucoup aidé. Puis je suis très 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 reconnaissant de la confiance que le cégep de Lévis m'a accordé à ce moment-là. Puis à ce jour, il y a quelques joueurs que j'ai coachés en 2021 que j'ai eu la chance de travailler avec eux encore aujourd'hui. Puis ils me parlent comme quoi mais j'ai laissé une expérience positive dans leur parcours, puis c'est tout ce que je peux demander, moi. J'étais très content.
Tu es aussi beaucoup impliqué dans le football amateur au Québec, surtout dans la Team Québec. J'ai vu dans un de tes posts, tu dis « Je suis profondément reconnaissant d'avoir eu la chance de travailler avec une équipe aussi talentueuse et unie. Vous êtes tous des personnes extraordinaires et je suis honoré d'avoir pu partager cette expérience avec vous. Les leçons que j'ai apprises de vous resteront avec moi tout au long de ma carrière d'entraîneur et au-delà. » Qu'est-ce que tu veux dire par leçon? C'est quoi que tu as appris de cette expérience-là?
Position moins talentueuse qu'un autre, mais il y a plus de polyvalence puisqu'il peut jouer deux positions ou bien sur des unités spéciales. C'est un spécialiste, c'est le meilleur botteur, c'est un spécialiste des longues remises ou quoi que ce soit. La raison pour laquelle, comme à ce jeune âge, les jeunes qui pratiquent des skills en particulier, c'est important qu'ils continuent à développer ça parce que ça peut être leur porte d'entrée au Team Québec ou collégial, disons, à l'université ou même pro un jour. Un spécialiste des longues remises, Yann Leroy, a été repêché par les Blue Warriors il y a 2 ans parce que c'était meilleur au Canada, à mon avis, de le faire. T'sais.
Shit.
Puis, ce qui m'a vraiment apporté, c'est que justement, okay, là, tu prends 40 jeunes, que t'en as qui sortent de Allemagne, qu'il y en a qui sortent de Montréal, il y en a qui sortent de Québec, qui se connaissent ni d'Adam ni d'Ève, puis il faut que tu puisses faire ça coller, puis que tu vas travailler ensemble pour un tournoi de 2 semaines, que tu vas travailler contre ou jouer contre d'autres provinces, que eux, ils pensent que c'est les Kingpins. Puis le Québec, on a souvent la réputation qu'on a des gros programmes à l'université, mais même le niveau collégial est très très fort. Puis on est fiers du football qu'on joue ici. Donc évidemment, nous on va là, on va jamais là dans l'optique, on va là juste participer. On a les aspirations de gagner à chaque année. Puis c'est vraiment ça le mindset qu'on essaie d'inculquer aux gars. Puis c'est vraiment nice voir à quel point, une fois que disons, la dernière coupure est faite, parce que ça tombe de 54 à 40. Ces 14 gars, malheureusement, qu'on doit laisser partir, ben, c'est souvent des gars qui peuvent nous aider ou qui n'ont pas été en mesure de se distinguer parmi d'autres. Mais du moment où est-ce que la pression des coupures tombe, c'est là où est-ce que tu vois vraiment une grosse soudure au sein de l'équipe, où est-ce que les gars, ça commence à chiller ensemble, ça parle, un receveur parle avec un joueur de ligne, tandis que souvent, ils sont plus stressés, ils sont vraiment en attente de la confirmation dans l'équipe.
Mm-hmm.
C'est là où est-ce qu'on passe durant 3 semaines ensemble, H24, pendant 3 semaines de l'été, où est-ce que évidemment, même que ce soit les jeunes qu'on développe des liens, même avec le coaching staff, c'est le fun parce que c'est des coaching staff composés d'entraîneurs de tous les circuits au Québec. Donc ça me permet un peu de voir un peu la façon que les gars avec qui je compétitionne en temps normal, comment ils se préparent, comment ils travaillent, puis comment on peut venir ensemble pour le but commun de ramener un championnat pour notre province. Puis à chaque année, ou les 2 dernières années que je l'ai fait, ben, ça a été un plaisir pour moi. Puis ça m'a permis en fait de connaître des coachs fantastiques à travers le circuit, puis ça me fait juste plus respecter le travail qu'ils font, parce que je sais qu'il y a sûrement un gagnant au Canada à la fin de la saison, mais je sais que tous les coachs ici se préparent adéquatement, puis qu'ils investissent, puis le
coacher le football, c'est une vocation. Il faut que tu dévoues l'automne. Souvent, c'est le temps familial un peu qui prend le côté, ou pas le côté, mais souvent un peu sur le back burner, tellement que tu dois t'investir pour justement les 100 gars que tu as dans ton vestiaire qui te posent dans la même direction pour chercher un championnat. Donc, moi, je dis un gros shout-out à toutes les femmes de coach de football à travers le monde, je pense que je pourrais même dire ça parce que elles sont super, super importantes. Puis elles prennent une grosse partie du lot pendant l'automne.
Ça, je suis 100% d'accord avec toi. Puis l'affaire qui est le fun, comme tu dis, c'est le fait de t'entourer de plus de coachs qui sont universitaires. Tu peux voir, tu peux apprendre de eux beaucoup. Là. T'sais, ils ont de l'expérience. La majorité ont de l'expérience. Puis, cette année, en plus, je pense que tu fais aussi partie du coaching staff, right?
Pour l'édition de cet été, je ne ferai pas partie. J'ai fait les deux dernières cette année. Okay. Comme j'ai parlé de ma fille, je vais passer un peu de temps cet été avec ma fille, puis profiter du temps en famille.
Mm-hmm.
Mais je ne suis pas fermé à l'édition dans les années futures. Donc, Team Québec.
Nice, man, nice. Linebacker prototype, c'est une autre façon de coacher pour toi. Je sais que tu es un spécialiste des linebackers. Tu peux-tu m'expliquer un peu c'est quoi linebacker prototype? C'est quoi ton rôle là-bas? Puis qu'est-ce que vous faites pour développer les linebackers?
Des linebackers, que ce soit évidemment sur les séances sur le field, on a des volets IQ, où est-ce que les gars rencontrent des coachs universitaires, où est-ce qu'on fait juste un peu vulgariser ou breakdown un peu du film sur comment quoi regarder, comment te placer, comment donner de l'edge, comme ça lorsque tu peux assimiler du film avec ton équipe, là, que tu peux facilement trouver les endroits sans. Parce qu'en fait, je vais juste faire un petit symbiose à la position de linebacker. Si tu essaies de tout voir, tu vas rien voir. Il faut qu'on simplifie nos yeux, il faut qu'on simplifie nos lectures. Puis en ce moment, on essaie juste dans le volet d'IQ d'implanter ça pour faciliter les lectures de les gars. Ils ont aussi un speed training, du pilates, du yoga. Il y a plusieurs affaires. On veut incorporer global, c'est quoi l'excellence donc, pour notre position. Puis moi, en fait, j'ai pris la branche à Québec cet été, en fait. Puis je suis le head coach, puis le directeur des opérations. Donc moi, je travaille avec, cette année, on a 9 jeunes qui travaillent avec nous. Je travaille à 2 séances par semaine où est-ce que je travaille en fait les fundamentals. Donc on a tout le temps des blocs d'agilité, pliométrie, destruction de blocs, notre footwork, notre transition, le pad level, toutes les choses où est-ce qu'on peut vraiment prendre plus de temps de travailler puis mettre les bonnes dans les bonnes bases pendant l'été. Comme ça, lorsque tu arrives à ta saison ou à l'automne, lorsque ça commence, puis que tu rentres dans les cahiers de jeu, mais que ta technique soit right, puis que tu sois prêt à exécuter rapidement. Sans nécessairement devoir matcher, ok, je dois prendre mon scheme, plus je dois travailler ma technique. On est vraiment plus en mode de base, puis c'est ton entraîneur ou ton équipe qui vont vraiment sortir ton
jeu que tu joues.
Mais c'est quelque chose dans laquelle moi je crois grandement. J'ai fait ça à la base pour pouvoir redonner à la jeunesse. J'ai fait Team Québec, comme on a mentionné, pendant 2 ans, puis c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et le fait que j'ai pu continuer à faire une branche un peu plus différente, où c'est un peu plus flexible selon mon horaire. De travailler avec des jeunes, puis de leur transmettre mon savoir, ma passion, puis ultimement essayer de leur encourager, de leur donner les outils pour être les meilleurs linebackers dans leur équipe et être dominant au sein de leur organisation. Ben, c'est mon but, puis c'est ce que je leur souhaite à la fin de l'été.
Si tu avais à me dire, mettons, c'est quoi les atouts principaux qu'un linebacker devrait avoir? Ça serait quoi, tu penses?
Un bagage athlétique assez important, donc que tu sois explosif, fort, et que tu sois capable de traduire l'information devant toi pour pouvoir exécuter comme il faut. Donc il faut aussi avoir un bon volet cognitif pour comprendre. La dernière chose que je dirais, c'est violence, polyvalence, leadership. Leadership, c'est important. Moi, je considère, puis je dis souvent, mon gars, on est le poumon un peu de la défensive.
Exact.
Mais la liaison avec le front-end, soit passer des tracés ou travailler lorsqu'on travaille des concepts de couverture ou est-ce qu'on travaille ou on peut échanger des tracés ou quoi que ce soit. C'est important qu'on soit tous sur la même page. Donc, un linebacker muet, pour moi, ça ne fonctionne pas. Il faut que tu sois un peu dans le mindset alpha, il faut que tu sois communicateur, puis il faut que tu présentes à chacune des opportunités qui se présentent devant toi.
Laval, maintenant, j'aimerais qu'on prenne le temps. La première question qui me vient en tête en parlant de Laval, c'est ça fait combien de temps que vous avez le même coaching staff? Okay? Parce que, honnêtement, moi, je parle vraiment des coachs principaux, des coordonnateurs. Glenn, il est là depuis le début du programme. Vous avez trouvé une recette gagnante, mais ça fait combien de temps que vous travaillez tous ensemble comme ça? Est-ce que tu le sais ou...
Marc Fortier, notre coordinateur défensif, si je ne m'abuse, est là depuis 25 ans.
Waouh!
Par la suite, Justin Etier, notre coordinateur offensif, lui, c'est peut-être plus de 20 ans également, ça je peux te le dire. Carl Benning, notre coach de lingua offensive, plus de 20 ans également. Mathieu Bertrand, notre coordinateur du recrutement et notre coordinateur des unités spéciales. En fait, de coordonnateur ou quoi que ce soit, ça fait, je te dirais, au moins tous facilement plus de 20 ans de travail ensemble. Puis je pense que ça fait une de nos forces, la stabilité au niveau de notre programme. Les gars, ils se connaissent super bien, enfin, plus que ben, personnellement, évidemment, parce qu'à force de se côtoyer, ils se connaissent bien, mais la confiance est vraiment, vraiment, vraiment là. Comme Glenn, oui, c'est notre entraîneur-chef, c'est le chef de l'équipe, mais en défensive, c'est Marc Fortier, le chef. C'est comme, quand on parle de défense, c'est Marc de l'équipe de Glenn. Puis Glenn a zéro. Avec les années, les gants ont fait leur preuve, puis ils ont démontré comme quoi ben, ils peuvent justement mériter la confiance de notre head coach. Mais je pense que c'est vraiment ça qui fait notre force dans notre programme. La stabilité, puis le fait qu'un joueur qui a joué à Laval entre 2001 et 2005 va avoir une expérience similaire à un joueur qui va se joindre à nous parce que c'est quand même les mêmes valeurs qui sont
là.
Donc on a toujours une vague comme ça où est-ce qu'on essaie d'amener les jeunes à joindre au bateau, mais tout en restant leur même, on va pas demander à un gars de se dénaturer pour faire partie. Puis je pense que ça fait partie aussi des joueurs qu'on va recruter. Si on sent que ça ne sera pas un fit au niveau de l'équipe, ça peut être un joueur qu'on va gravitationner vers. Mais si c'est un joueur que justement on voit qui peut être fit dans notre culture, si c'est un joueur que nous on voit un plan à moyen long terme, ou à court moyen terme, pardon, pour lui, bah, ça, c'est à son honneur. Comme je te dis, c'est très compétitif, on a des bons joueurs un peu partout sur le line-up, donc il faut que tu réussisses à faire ta marque ou à te démarquer d'une certaine façon.
Exact. Temps plein, vous avez combien de coachs temps plein pour le fun?
7, si je m'en dis 7.
7, quand même. 6.
Ouais, 6 à temps plein. On avait un 7e, mais comme tu dis, un de nos entraîneurs a fait un changement, il est toujours parti de notre staff, mais là, il a juste tombé à temps partiel, mais. On a des gens ici en place à tous les jours pour prendre soin de tous nos joueurs. Puis je pense que c'est important qu'ils comprennent aussi que moi, je leur dis souvent, je suis impliqué au niveau de tout ce qui est préparation physique. Je vois les gars plus qu'une base quotidienne. Puis ils sont libres de venir me parler à n'importe quel moment. Ils savent que je suis là, que ce soit parler de football, que ce soit parler de la vie personnelle, que ce soit parler de quoi que ce soit. Mais il n'y a pas de gêne. Puis on est là. Moi, je suis là pour servir à nos joueurs. Puis c'est important qu'ils sachent ça.
Souvent, les gens, ils vont dire. Oh, la Ligue RSEQ, c'est une ligue à deux équipes, il y a juste Laval, il y a juste Montréal. Moi, en fait, j'ai envie qu'on réponde à cette question-là en ce moment. Puis, en fait, moi, je ne vais pas te demander est-ce que c'est une ligue à deux équipes. Moi, je vais te demander est-ce que Laval se prépare de la même façon s'ils vont jouer contre les Carabins ou peu importe une autre équipe de la Ligue.
Leur journée dans leur bureau à se rouler les pouces, ils cherchent des solutions, ils cherchent à trouver des failles ou essayer de trouver justement des switch-up pour nous catch off guard ou pour nous donner des looks un peu plus différents. Donc nous, que ce soit match pré-saison numéro 1 de l'année, que ce soit la Coupe d'année, on va peut-être une préparation, je peux dire ça serait pareil, peut-être il y a des affaires qu'on va tweaker, mais il y a toujours le même sérieux ou le même processus qui est apporté de semaine en semaine parce qu'on a trop de respect pour nos adversaires, puis les autres équipes, on sait à quel point elles travaillent. Puis je vais dire quelque chose, puis je ne dis pas ça pour être prétentieux ou quoi que ce soit, mais quand tu es un peu au stade où est-ce que nous on est, où est-ce qu'on est souvent considéré comme une des équipes au top au Canada, on sait qu'à chaque semaine, on va avoir la meilleure chose de l'équipe sur laquelle on joue. Puis on ne veut jamais se présenter d'une semaine où est-ce qu'on sait que, OK, on va se présenter là, on n'a pas besoin de jouer notre meilleur, mais on sait qu'on va gagner le match. J'ai fait partie de matchs où est-ce qu'on pensait peut-être qu'on allait avoir plus facile, puis ça a été beaucoup plus difficile. Puis je sais que les autres équipes ici, ça travaille fort pour justement dans le recrutement. C'est souvent les mêmes joueurs qu'on recrute. Fait que quand on en perd un à une autre équipe, quoi que ce soit, on sait justement c'est quel type de joueur qu'on va faire contre. Et comme je t'ai dit, nous, on ne sous-estime jamais nos adversaires. On se prépare de la bonne façon, puis on respecte respect the game, le game respect you. C'est ce que je pense vraiment.
Exact. Exact. C'est bon, ça veut dire que, parce que c'est sûr que quand vous allez jouer contre d'autres équipes, eux, ils vont amener leur A-game, c'est sûr, à 100%, tu sais. Donc, c'est merci d'avoir partagé ça, man. Je pense que c'était important qu'on en parle. J'aimerais maintenant qu'on parle un peu rapidement de la saison 2024. Vous venez de gagner la 12e Coupe Vanier. C'est quoi la préparation mentale quand tu te prépares pour une Coupe Vanier? Cette saison-là, en fait, parle-moi un peu de la saison.
Lorsque, disons, on avait des départs plus longs, lorsque les choses ne se passaient pas nécessairement comme on voulait pendant le match, il n'y a jamais eu de panique sur le terrain, les gars étaient là l'un pour l'autre. Quand une unité avait plus de misère pour qu'une autre, ben, on savait qu'on avait des backs, ou disons, la défensive avait plus de difficultés, l'offensive avait même back, les unités spéciales se présentent à chacune des semaines. Puis ça a été ça qui nous a propulsé tout au long de la saison. Puis lorsqu'on était pour sauter un peu à la Coupe Vanier, on savait qu'on avait un adversaire important. On avait probablement statistiquement la meilleure offense au pays avec la carrière qu'ils avaient, Taylor Guzman, Ethan Jordan, le meilleur receveur de leur équipe également, qui était très très explosif puis qui avait fait des ravages tout au long de la saison. On savait qu'on avait un challenge à ce niveau-là, mais on était aussi très confiants de nos joueurs puis de la façon que du game plan qu'on avait monté pour le truc. On allait leur planter des looks qu'ils n'avaient pas nécessairement vu durant la saison, qui avaient pu brouiller un peu leur vision ou rendre ça plus difficile sur leur carrière, un excellent joueur qui a réussi à se dénicher un contact avec les Packers cette année. Mais on savait, on était très confiants en allant là qu'on avait l'équipe pour, puis qu'on avait le game plan en place pour pouvoir remporter le match. Puis rapidement dans le match, je pense qu'on a fait quelques jeux positifs en defense qui ont juste confié l'équipe à bloc, puis ont donné la confiance aux gars. Puis défensivement, on a fait un gros match. Même offensivement, on a bougé le ballon, on n'a pas réussi à puncher pour des touchdowns, mais on a eu excellente possession, notre bottom incroyable.
Puis c'est effectivement.
Ce sera pas toujours des blowouts de notre carrière qui lance 5 passes de toucher, puis qu'on lance pour 600 verges, puis qu'on court pour 200 verges. Des fois, c'est you gotta grind it out. Des fois, c'est spécial. Des fois, c'est des matchs de positionnement de terrain. Des fois, c'est juste quand tu peux garder une offensive aussi explosive hors du terrain. Mais c'est ça qui nous aide. T'sais, nous, on a confiance dans nos moyens, puis on avait une bonne offensive pour nous-mêmes aussi, sans le mentionner. Puis on a réussi à chercher la victoire à Kingston, c'était incroyable. Très beau stade, là-bas ils ont des belles installations, c'est relativement proche aussi du Québec, de nos familles, nos parents, nos amis ont voyagé, il y avait du monde au stade. C'était une excellente expérience, puis pour moi, mon premier championnat en tant qu'entraîneur, j'étais tellement content pour justement mon groupe de linebacker, les gars avec qui j'ai travaillé toute l'année dans toute l'équipe. J'étais vraiment fier de ces gars-là, puis on a eu la chance de recevoir nos bagues il y a quelques semaines.
Exact.
C'est vraiment une belle représentation de la belle saison qu'on a eue.
En parlant de bagues, c'est quoi que ça veut dire le whatever it takes puis le unbreakable sur la bague?
Je pense que c'est un peu ça, whatever it takes, right? que ça soit tous nos joueurs étoiles ou que ça soit un joueur qui est en fin de saison ou d'une blessure, il est demandé de répondre, de monter au bat. Un home run, on a besoin
sois prêt à aller. Tu sais, je dis souvent, tu sais quand le match commence, tu sais pas quand ça va terminer.
Mm-hmm.
6 overtime, là, on va jamais plier. Même coup d'en face aussi, ça aurait été une des équipes les mieux conditionnées au pays. Il faut qu'on ait beaucoup, de, beaucoup d'efforts dans le conditionnement physique l'été. Les gars sont investis, les gars ils veulent. C'est ce que je suis assez chanceux ici, c'est qu'on est rendu un peu au top de la pyramide. Lorsque tu es à l'université, puis il y en a seulement un certain nombre au Québec. Tous les gars sur toutes les équipes, ils veulent être ici. Puis il y a
Pas
qui est forcé. Puis si jamais ben, tu n'as plus l'intérêt ou tu perds la flamme, ben, il n'y a personne qui te retient ici en otage. Tu peux dire ça ne m'intéresse plus. Puis il y en a un autre qui souhaite juste avoir sa chance. Whatever it takes, les gars étaient prêts à aller n'importe où, n'importe quand jouer. Puis Unbreakable, ben, je pense que c'est juste un bon mantra de mental toughness, que ça parte bien, que ça parte mal, qu'il fasse froid, qu'il pleut. C'est tous des éléments extérieurs, on contrôle ce qu'on peut contrôler, on met un pied avant l'autre, puis un step à la fois, les choses vont se passer. Puis je pense que c'était un des mindsets que les gars ont eu. Il y a beaucoup de. C'est toujours au Québec, il y a des médias, il y a du bruit des fois qui sont au courant de la semaine, des articles, des gars qui sont placés, des gars qui se font sentir qu'il manque un peu de respect ou quoi que ce soit. Donc. Contrôle ce que tu peux contrôler, puis pour le reste, ben, tu régleras ça en ligne blanche.
Exact. Une bague, la coupe vanille comme ça vaut combien pour le fun, sais-tu?
Je pourrais pas te dire où ça fait, tu parles au grand chef.
Un
gros caillou, tu dirais, c'est une coupe de centaines de dollars certains.
Là. Ah, parce que j'ai vu ça, puis c'est une vraie bague, là. C'est de quoi de vrai, là? C'est pas. Ouais. Ça, c'est fly. Tant qu'à jumper là-dessus, c'est quoi les valeurs de l'Université Laval, du programme de football? Parce que là, tu as parlé de Whatever It Takes, Unbreakable, mais ça, c'est ce que vous avez mis sur la bague, mais je suis sûr que chaque programme a leur valeur. C'est quoi qu'à Laval, ça ressemble à quoi ces valeurs-là?
Puis ça va juste te renforcer, puis ça va te donner du gaz, ou ça va donner du fuel pour la prochaine saison. Puis il faut que tu utilises toutes les opportunités où est-ce que ça peut terminer comme tu l'aurais souhaité pour motivation ou en guise de motivation pour la saison par la suite. Par la suite, chez nous, on est une équipe, il faut que tu aies un grand sentiment d'abnégation. Ça veut dire qu'il faut que tu mettes toujours l'équipe avant toi. Mais on est conscient que souvent, on recrute des joueurs qui ont été des joueurs étoiles dans les différents circuits, division 1, division 2, division 3. Tu as souvent été le top dog dans ton équipe. Là, tu vas arriver ici, puis tu vas être rempli dans un depth. Tu vas être rempli de top dogs. Okay? Comment tu vas te démarquer? Comment tu vas réussir à mettre l'équipe en premier? Put the team first. Tu sais, c'est très, très, très compétitif. Mais on est limité à des rosters de 52 joueurs lorsqu'on joue dans le
premier. Mm-hmm.
Donc, la réalité, c'est que près de la moitié de l'équipe n'est pas habillée au jour de match. Est-ce que tu vas être sorti ou est-ce que tu vas être content et fier du gars qui va représenter tes couleurs? Peut-être tu vas avoir ton jersey pendant cette semaine-là, mais il faut que les gars soient en mesure de, comme tu dis, pousser tous dans la même direction. Si ton gars fait un jeu, il joue à la même position que toi, il fait un jeu pendant le match, mais je m'attends à ce que tu célèbres aussi si c'est toi qui le faisais, parce que tout le monde est important dans ce match. Mm-hmm. Ce n'est pas juste nos partants ou nos proches qui ont plus de visibilité. C'est vraiment, on dit souvent, comme on est aussi fort que notre plus faible maillon. Donc,
exact. Mm-hmm. Fait que dans le fond, exact. Put the team first. Fait que ça, c'est vraiment un non-negotiable là, quand tu te fais recruter à Laval ou quand tu fais partie de l'équipe. Cool, man. C'est vraiment cool que tu me dises ça. Je suis hâte de vraiment rallier les dots. En parlant de recrutement, justement, c'est quoi que vous faites de différent des universités? Comment vous faites pour aller chercher autant de gros noms à chaque année?
Sur ta liste. Mathieu, notre coordinateur de recrutement, coordinateur du recrutement qui fait un travail colossal, probablement à juste rentrer en contact avec les jeunes. Il parle souvent avec tous les coachs du circuit collégial pour savoir c'est qui les finissants, c'est qui les pupilles cachées, est-ce qu'il y a des joueurs que justement on n'est pas au courant mais qui sont finissants pour pas qu'on se fasse surprendre ou quoi que ce soit. Par la suite, quand il vient ici, on est très chanceux d'être dans des super belles installations. On leur montre le tour de c'est quoi en fait que tu vas côtoyer quand tu arrives ici sur un day-to-day basis. Puis par la suite, je pense que c'est important de s'asseoir avec les gens avec qui tu vas côtoyer, donc ton coach et ton staff, pour voir si tu peux connecter avec ces gens-là. Parce que comme j'ai parlé tantôt, c'est une décision importante pour 4 à 5 ans de ta vie, mais c'est beaucoup d'efforts et d'investissements qu'on va te demander, on va te pousser. Puis tu vas sortir d'ici une personne grandie physiquement. Que tout va bien, puis nous on prend beaucoup ça avec un diplôme en main. Puis si les choses s'alignent bien pour toi, puis ça fonctionne, ben, tu risques d'avoir une shot pro si les choses fonctionnent, puis si tu fais le mot un peu de ce que les équipes recherchent. Mais c'est important que nous on fasse ça, puis qu'on soit transparent. Je pense qu'on est très transparent dans la façon que nous on fait notre recrutement, parce que d'une année à l'autre, les joueurs ça se parle, ça se communique. Fait que nous on n'est pas des vendeurs de rêves, on invite les joueurs ici, on leur donne l'information, on leur donne l'immersion totale de qu'est-ce que c'est être un joueur du Rouge et Or. Puis on est chanceux justement que je pense que un peu la façon que le programme est structuré puis les succès qu'on a sur le terrain, ça nous aide grandement. Je pense que tout le monde veut aller pour un programme ou vise à aller dans un programme qui a du succès puis qui peut donner la chance de gagner des matchs, des championnats, avoir un bac par la suite si l'opportunité se présente d'avoir une opportunité pro. Puis nous on se considère très fort dans ces trois choses-là pour le développement de nos joueurs. On a un plan à court moyen terme pour toi. Il faut qu'on juge que tu vas être un bon fit au niveau du mix de jeunes qu'on a dans notre vestiaire. Par la suite, il faut que nous, on sente que tu fais un peu dans ce que nous, on a pour toi ou ce qu'on prévoit ton évolution après la raison.
Il y a 13 joueurs du Rouge et Or maintenant qui sont dans la CFL cette année, qui font partie d'une équipe. Comment vous faites pour préparer vos joueurs pour aller chercher l'excellence tout le temps comme ça?
Comme t'entraîner, prendre soin de ton corps ou faire plus de films. Mais si tu voulais, tu pourrais aller à la maison puis gagner pour le reste de la journée. Mais avec les valeurs qui sont appliquées ici avec nos joueurs, avec justement la préparation physique, la préparation mentale, les bonnes habitudes, qu'est-ce que tu peux faire pour aider ton sort, aider ton équipe pour être en mesure de mettre la meilleure prestation sur le terrain de semaine en semaine. Mais c'est toutes des choses qui nous on prône, qu'on essaie d'inculquer ici lorsque les joueurs sont avec nous. Comme ça, lorsqu'ils vont en pro, ils ont la facilité à juste faire ça. C'est juste là, c'est apprendre le nouveau cahier de jeu, apprendre un peu la nouvelle terminologie, puis la culture organisationnelle qui est dans une équipe professionnelle. Mais c'est pour ça aussi que souvent plusieurs de nos joueurs qui sont pros, mais dans la saison noire, ils viennent ici à la balle s'entraîner, ils passent à la saison ici. Fait que ils sont encore un peu. T'es un rougeur un jour, t'es un rougeur toujours, puis dans le vestiaire, il est dans le groupe. C'est très très compliqué.
Exact. En finissant, tu pourrais-tu me dire qu'est-ce que Glenn Constantin représente pour le programme? Comment qu'il a façonné la culture de ce programme-là?
Augmenter la visibilité, augmenter un peu la compétition à travers les différents réseaux, juste garder le sport du football, pas vendeur, mais aussi que les gens veulent s'attacher au produit parce qu'on est chanceux. Au Québec, je le sais, les gens aiment beaucoup le football, mais au Canada aussi, tu sais, la CFL, elle est présente. Puis je pense qu'à chaque fois qu'on a la chance de jouer contre des équipes un peu ailleurs au Canada ou quoi que ce soit, mais la notoriété du Rouge et Or est plus qu'à travers les frontières québécoises, à travers le Canada, puis c'est à travers, je pense, le travail qui a été fait par Len et tout le staff à travers les années qui ont juste monté une autorité qui, en ce moment, c'est indéniable. Je ne peux pas dire que le Rouge et Or n'est pas une équipe bien préparée, bien structurée d'année en année dans toutes les sphères des choses qu'on fait. On essaie d'être le standard, puis je pense que c'est grandement grâce à lui puis à sa vision du programme.
Merci, Kian, d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui, de venir partager ton expérience, mais aussi c'est quoi Laval, en fait? C'est quoi l'Université Laval, un peu? Ça, je trouve ça vraiment le fun, en fait, de venir partager ça. C'est très apprécié, honnêtement. Merci beaucoup.
Ça fait plaisir. Merci d'avoir envoyé l'invitation. On se prend un peu à tout si jamais l'opportunité se présente.
Ben oui, certainement.